It's so hard to describe Quincy. He really loved music.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
Une page d'histoire mise en musique. Jukebox, qui a pris ses quartiers d'été, vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Ce soir, quand la lumière se joue dans l'ombre, des ghettos de Chicago au roi de la pop en passant par le Paris Jazz des années 60 et les studios d'Hollywood, retour ce soir sur la carrière de l'un des plus influents arrangeurs et producteurs du XXe siècle, l'américain Quincy Jones. Q, sa félinité, sa moustache élégante et surtout son impeccable intuition musicale qui, sept décennies durant, l'ont fait naviguer entre tous les styles, jazz, variété, soul, bossa nova ou disco. Impossible de résumer tout ça en une heure. Alors ce soir, nous nous pencherons sur ses débuts jusqu'au triomphe de ses collaborations avec Michael Jackson. Ce soir, Jukebox, Quincy Jones, la science de l'orchestre. Qui a suggéré à ce moment-là de prendre une simple bouteille vide pour donner le ton? Lui, peut-être. Après tout, ça peut commencer comme ça, un tube. Une intuition, une énergie et une bouteille de bière vide à 50 cents. À condition de savoir où on va, corrige-t-il de lui-même dans sa tête, tandis que derrière la vitre, il voit le gamin s'approcher du micro.
We're gonna be starting now, baby. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Don't
stop. La maquette est proche du produit fini. Le son manque encore un peu d'ampleur, mais ça, Quincy Jones sait faire. Il est à son affaire, c'est d'ailleurs la partie du boulot qu'il préfère. Imaginer le son, et puis coordonner les talents, susciter la passion et sentir l'air du temps. Ce jour de décembre 78, derrière la vitre de la régie du studio Cherokee sur Fairfax Boulevard, Los Angeles, Quincy Jones, la quarantaine svelte moulée dans son col roulé, moustache ronde et courte coupe afro, observe les choses dans son habituel mélange de relâchement, de sophistication et de soucis obsessionnels du détail. Face à lui, dans la cabine, le gamin, la moitié de son âge, une écharpe de soie autour du cou, se déchaîne comme un diable à chaussettes blanches. Toute sa timidité semble s'être évanouie. Ce lundi 4 décembre 78 ont débuté les premières sessions du projet et derrière son micro, Michael Jackson déroule avec assurance sa voix de fausset. Quincy le sent, ils sont dans le ton, celui du futur de la musique disco. Il se dit qu'il revient de loin, lui qui, 4 ans plus tôt, était donné pour mort ou presque, allongé sur un billard dont sa tête était la bille, sa caboche comme une pastèque gonflée par un anévrisme et menaçant d'exploser. Il avait une chance sur 100, on lui avait même rasé le crâne et conservé ses cheveux dans un petit sac pour les lui réimplanter dans son cercueil. Mais non, il avait surmonté l'opération et puis la suivante, 8 semaines plus tard, Quincy s'était relevé et avait repris du poil de la bête. Par la suite, il avait fait des choses, bien sûr, avait sorti 2 albums, laissé traîner l'oreille. Quand on est un radar, on ne se refait pas. Mais ses projets manquaient d'ampleur, justement. C'est alors que Michael l'avait contacté. Tous deux s'étaient croisés quelques fois auparavant, notamment sur le tournage d'un film de Sidney Lumet où Michael, encore ado, incarnait un étrange rôle d'épouvantail masqué. Le film avait fait un four, mais là, c'était autre chose. Et lorsque Michael l'avait rappelé, c'était vraiment pour parler musique. Le gosse voulait se lancer seul, sans ses frères, voler de ses propres ailes. Quincy avait tout organisé. Ils avaient travaillé ensemble la technique vocale de Michael, le soir, dans son salon. Et puis, quand il avait senti que le gamin était prêt, Quincy avait missionné ses tueurs, Rod Temperton, Stevie Wonder ou Paul McCartney, afin de composer quelques titres. Embauchant Bruce Sweden, l'ingénieur du son qu'il fallait, et puis sa mafia personnelle, les musiciens les plus funky. Composé par Rod Temperton, ce Rock With You, extrait de l'album Off The Wall, qui s'écoulera rapidement à près de 10 millions d'exemplaires, faisant de Quincy Jones le plus puissant des producteurs de l'industrie musicale sur Terre. Le reste de l'histoire est à l'avenant, mélange de frime, d'intuition, de travail et de bazar. Quincy n'est qu'un gosse parmi d'autres qui traîne dans les rues d'une banlieue de Seattle. Une nuit, lui et ses copains tombent sur une armurerie dont ils forcent l'entrée par désœuvrement ou par appât du gain. Les gamins parcourent la boutique, des flingues atterrissent sans doute dans certaines poches. Quincy, lui, tombe en arrêt sur un piano droit qui semble l'attendre dans un coin de la boutique. Il s'en approche, presse quelques touches et soudain ses doigts qui hasardent les notes, ce truc le fascine, le sauve, racontera-t-il plus tard. Toute la violence de son quotidien est soudain comme absorbée par l'instrument. La violence, celle de l'enfance d'un gamin noir et pauvre né en 1933 à Chicago, ville d'ouvriers et de tensions raciales. Grandissant dans le South Side, l'immense ghetto du Sud où s'entassent par centaines de milliers des familles noires soumises à la violence des gangs et à celle des flics. Sa mère, cadre dans une banque, a été internée souffrant de schizophrénie. À la maison, sa grand-mère, une ancienne esclave, cale leur faim à coups de rats frits aux oignons. À l'école, lui et son frère doivent un jour retirer leurs chaussures pour prouver que leurs pieds ne sont pas plus sales que ceux des blancs. À 11 ans, il travaille comme cireur de chaussures. Et puis, du jour au lendemain, il avait fallu fuir Chicago où son père, menuisier proche de mafieux locaux, n'était plus le bienvenu tandis qu'Al Capone reprenait la ville à ses rivaux. Le môme Quincy, dit la légende, n'a même pas le temps de repasser chercher un jouet chez lui. Peu importe, puisque maintenant, il a la musique. À 11 ans, il se fait offrir une trompette qu'il étudie à l'école et chante en parallèle dans un quartet de gospel. Via la trompette, surtout, il découvre le jazz qu'il écoute à la radio. Il traîne chez les disquaires, il se fait l'oreille. Lorsqu'il a 14 ans, il déménage, lui, son père, son frère et sa belle-mère à Seattle. Là, un soir, dans un club pour noirs, il croise un pianiste de 2 ans son aîné, devenu aveugle quand il était gamin et qui l'impressionne par sa liberté et son succès. Le type en question vient de passer les années précédentes dans un centre spécialisé où il a appris le braille et la composition musicale. Les deux font la paire. Quincy Jones et Ray Charles, puisque c'est de lui dont il s'agit, passent des soirées ensemble, ils causent musique, puis ils forment un groupe de jazz, écumant tous les clubs les plus pourris de la ville, se produisant jusqu'à 4 sets chaque soir. Ray Charles, voici le premier repère de Quincy.
It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who couldn't make me be true. Whoa, 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 couldn't make me be blue. And even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Cause nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still now. And it had to be you. It just had to be you. It had to be you.
Comme une évidence, It Had To Be You, Ray Charles et l'orchestre de Quincy Jones, enregistré en 1959. Ray Charles, dont l'influence sur Quincy sera déterminante, comme le premier le rappelait des années plus tard. À cette époque, je travaillais chaque nuit dans un club de 1h à 5h du matin. Je rentrais chez moi vers 6h. Un jour, alors que je suis couché, il m'appelle à 9h, m'expliquant qu'il veut que je lui apprenne à composer. Je lui dis, mec, tu sais quelle heure il est? Il s'en foutait. Il a tellement insisté que je suis sorti de mon lit et que je lui ai montré. Il voulait apprendre. Et de fait, grâce à la méthode de notation en braille et les conseils de Ray Charles, Quincy Jones intègre tout. Il lui manque encore la pratique, mais ni la méthode, ni la détermination. Il a 14 ans seulement, mais Robert Blackwell ne s'y trompe pas, qui l'intègre au sein de son orchestre, où il accompagne les plus grandes voix du jazz, Billie Holiday, Billy Eckstein, Cab Calloway. Après avoir décroché une bourse d'études et s'être perfectionné pendant un an dans une université de Boston, Quincy intègre l'orchestre du vibraphoniste Lionel Hampton. Le salaire est dérisoire, mais ça lui permet de voyager et de tourner 3 années durant en Europe, mais aussi dans le sud des États-Unis. Là, il découvre le racisme du sud, mais aussi la débrouille des tournées où, après les spectacles, les musiciens doivent glisser leurs pantalons sous leurs matelas et saturer la salle de bain de buée pour éliminer les plis de leurs chemises. Quincy n'a que 20 ans et déjà, il écrit ses premiers arrangements pour les plus grands. Sarah Vaughan, Dinah Washington, Count Basie, Duke Ellington, Gene Krupa et donc Ray Charles. Début 56, et ça suffirait à d'autres pour plastronner, il accompagne un jour, comme deuxième trompette, Elvis Presley, 21 ans, qui, ce soir-là, casse la baraque du plateau de CBS avec Heartbreak Hotel. Dans la foulée, il rejoint le big band de Dizzy Gillespie, le trompettiste du bebop, comme directeur musical de son big band pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient et en Amérique latine. En voyage, il n'oublie jamais de déployer ses antennes. Et puis il saute le pas et crée son premier orchestre à lui. En 56, paraît « This is how I feel about jazz », enregistré en septembre à New York, puis à Los Angeles, où il s'entoure déjà d'une impressionnante formation, du saxophone alto de Phil Woods à la basse de Charles Mingus ou, comme dans ce « Walking », de Paul Chambers. Thank you. Quincy Jones et son orchestre Walking, extrait de l'album This Is How I Feel About Jazz, paru en 1956. À cette époque, Quincy Jones a 23 ans. Il est devenu l'un des arrangeurs les plus en vue de New York. Pourtant, ça ne lui suffit pas, il lui reste tant à apprendre. L'été 57, il vient donc en France afin d'y rencontrer Nadia Boulanger, une immense pédagogue de la musique contemporaine. Parmi ses élèves sont passés Aaron Copland ou plus récemment Michel Legrand ou Astor Piazzolla. Quincy est venu la rencontrer sur les conseils du Brésilien Villa-Lobos, à moins que ce ne soit recommandé par Lalo Schifrin. L'austère et autoritaire Nadia Boulanger produit sur lui, comme sur tant d'autres, un effet indélébile. Elle le reçoit dans son appartement parisien de la rue Ballu, près de la place de Clichy, ou bien, l'été, dans le château qui, à Fontainebleau, héberge le conservatoire qu'elle dirige. Elle aime le jazz, mais elle lui intime d'étudier les classiques européens, lui fait croiser Stravinsky, lui impose de travailler avec des contraintes. Quincy s'exécute, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Mais il n'est pas juste venu à Paris pour ça. Il y a aussi été attiré par un coup de fil de Nicole Barclay, la femme d'Eddie, qui, 3 ans plus tôt, a fondé son label et recherche un arrangeur américain. Quincy se retrouve embauché comme directeur artistique aux côtés de Boris Vian, de Frank Teno ou de Daniel Filipacchi. Chez Barclay, il peut enfin s'adonner à ce dont il rêve depuis longtemps, écrire des arrangements pour cordes. À cette époque, en effet, aux États-Unis, on considère ce travail comme trop fin, trop sophistiqué pour être confié aux noirs qu'on cantonne aux arrangements pour cuivre, au jazz, leur creuset et la case dans laquelle on aime aller ranger. Durant cette période, lui, le petit pecno du South Side de Chicago, fréquente, grâce à Nicole Barclay, toute la jet set et l'intelligentsia à Paris comme sur la Côte d'Azur. Surtout, il enchaîne les collaborations avec les chanteurs et les groupes de variétés locaux, Charles Aznavour, Henri Salvador, avec les Double Six de Mimi Perrin, l'un des premiers groupes vocaux de jazz en France, mais aussi pour l'immense orchestre Maison de Barclay, qui compte dans ses rangs les Français Stéphane Grappelli, Pierre Michelot, mais aussi des Américains de passage comme Kenny Clarke ou Lucky Thompson. Il arrange aussi un album à l'attention de Sarah Vaughan, la grande diva du jazz. L'album « Vaughan with Violence » est enregistré à Paris en juillet 58 et comprend cet élégant « That's all ». «
Promise to be near each time you call, and the only heart I own for you and you alone, that's all I can only.
Soul, Sarah Vaughan sur des arrangements de Quincy Jones, Paris, 1958. Suivante, il vit encore à Paris, Quincy, qui possède déjà une solide réputation et le carnet d'adresses qui va avec, est nommé directeur de la troupe de la comédie musicale Free and Easy, laquelle, après une tournée en Europe, est censée aboutir à Broadway. L'expérience tourne au fiasco. Sauf que Quincy, qui refuse de voir le big band qu'il a constitué se dissoudre aussi vite, emmène, à la force de la volonté, ses 18 musiciens à travers le continent, errant comme une armée de clochards toujours fauchés, de pays en pays, en quête d'engagement. Au bout de 10 mois à ce régime, à passer des coups de fil dans tous les sens pour garder le navire à flot, Quincy jette l'éponge. Lui, l'éternel optimiste, est au bord de la dépression. Plus tard, il dira de cette période « Nous avions le meilleur orchestre de jazz de la planète et pourtant, nous mourions littéralement de faim. » C'est là que j'ai compris qu'il y avait la musique et qu'il y avait l'industrie musicale. Si je devais survivre, je devrais distinguer les deux. C'est Irving Green qui le sort du pétrin, lui prétend de l'argent. Ami de longue date, Green avait fondé le label Mercury. Une fois rentré aux États-Unis, Queens reçoit un nouvel appel de Green qui lui propose un poste de directeur artistique. Mercury, une des majors de l'industrie du disque, réputée à l'époque pour la qualité et le soin extrême apporté à ses enregistrements. Un rêve pour Quincy, qui accepte et devient rapidement vice-président du label. C'est alors la plus haute fonction occupée par un noir dans un gros label américain. Et dans un pays encore placé sous le joug ségrégationniste, cette percée d'un jazzman afro-américain ne passe pas inaperçue. Bureau confortable, studio luxueux, c'est chez Mercury que Quincy, qui s'est lourdement endetté, va se familiariser avec l'industrie discographique. Il apprend les ficelles du métier, des usines de pressage de disques jusqu'au comptoir de vente ou au marketing. Chez Mercury, il commence par signer des grands artistes de jazz, Cannonball Adderley, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan ou d'autres, mais il puise aussi dans tous les répertoires qu'il réarrange à sa sauce. Prenons la bossa nova par exemple, apparue quelques années plus tôt au Brésil. En 62, il compose le planétaire Soul Bossa Nova, ou bien réarrange l'année suivante Chega de Saudade de João Gilberto, dont il dirige les enregistrements l'été à New York. Quincy Jones s'entoure encore pour l'occasion, et comme ce sera toujours le cas, des plus grands solistes, ici Clark Terry à la trompette, Phil Woods au saxo, Roland Kirk à la flûte et Lalo Schifrin au piano. France Culture, Jukebox, ce soir Quincy Jones, Mister Arrangeur. Pendant son contrat chez Mercury, Quincy Jones va donc arranger des dizaines d'albums de jazz, le jazz qui reste sa passion. Entre deux boulots, il obtient d'ailleurs du label la possibilité de diriger et de produire un album qui fera date dans l'histoire du jazz, The Quintessence, dont il dirige l'enregistrement sur 3 jours seulement parmi 27 musiciens. The Quintessence, dont voici l'un des extraits, Portrait Robot, ce Robot Portrait. Mais donc, même s'il est toujours fan de jazz et notamment de bebop, Quincy Jones est poussé, et beaucoup dans le cénacle du jazz le lui reprocheront, il est poussé vers la variété, histoire de faire gagner un peu d'argent à Mercury au lieu de plomber les comptes avec ce genre, le jazz qui se vend de moins en moins bien. Dès 63, sommé donc de se changer en producteur pop, il fabrique un tube sur mesure pour une jeune fille sortie de nulle part, Leslie Gore. Une jeune fille qui a toutefois le mérite de chanter juste. Il lui trouve le bon air et le met en boîte un samedi après-midi. Dans la foulée, le producteur Phil Spector, qui est tombé sur la maquette, tente de le doubler en faisant enregistrer une autre version de la même chanson par le groupe des Crystals. Mais Quincy Jones passe la nuit à coller des timbres, à envoyer son titre aux radios influentes, et sa version à lui se hisse rapidement en tête des ventes, devenant l'incarnation des turbulences adolescentes de l'Amérique. Nobody knows where my Johnny has got it. À propos de l'intuition de producteur et d'arrangeur de Quincy Jones, citons ici son confrère Bobby Tucker. Ce qui distingue Quincy, c'est sa rapidité, sa capacité technique à se sortir d'une impasse, et puis ses 8 premières mesures souvent cruciales parce qu'elles doivent accrocher l'auditeur. Quincy Jones, c'est le roi du démarrage qui pète le feu. Leslie Gore avec des arrangements et une production signée Quincy Jones pour cette It's My Party, même si, pour l'occasion, Quincy apprend à ses dépens qu'il faut soigner la lecture de ses contrats pour ne pas se faire plumer, lui n'ayant sur le coup presque rien touché. Il se rattrapera par la suite, creusant ce sillon variété, travaillant pour Barbara Streisand, Tony Bennett, mais surtout pour Frank Sinatra. Sinatra, dont il avait fait la connaissance quelques années plus tôt, en 58, lors d'un concert donné en l'honneur de Grace Kelly au Sporting Club de Monaco, où Quincy, appelé à la dernière minute pour diriger sur scène les 55 musiciens derrière The Voice, est ébloui par l'aisance de Sinatra. Il avait un tel swing qu'on aurait pu le mettre la tête en bas et le secouer comme un prunier, qu'il n'aurait jamais raté un temps, racontera-t-il dans ses mémoires. Sinatra, avec qui il collabore, écrivant les arrangements de l'orchestre de Count Basie en 64, avant d'enregistrer en 66 l'album Sinatra at the Sands, du nom d'un casino de Las Vegas. Derrière Sinatra, Count Basie au piano et l'orchestre de ce dernier, dirigé par Quincy. That's
Johnny Mercer and Harold Arlen. Now this man here is gonna take me by the hand, and he's gonna lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz. In the right tempo, fly me to the moon, let me swing among those stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love
Sinatra, Count Basie et Quincy Jones, Las Vegas, 1966.
One heart to trade or sell.
À 30 ans, Quincy Jones est désormais un producteur et un arrangeur installé, moissonnant ses premiers épis comme ce Grammy Awards de 1963. On l'appelle désormais par l'initiale de son prénom, Q. Sollicité par de plus en plus de monde, il est contacté par Hollywood, lui que le cinéma intéresse depuis longtemps. Il avait dû, des années plus tôt, en France, décliner la proposition de Jacques Demy de composer la musique de Lola, recommandant au cinéaste un autre élève de Nadia Boulanger, un certain Michel Legrand. En 64, contacté par Sidney Lumet pour écrire la bande originale du film « Prêteur sur gage », il ne laisse pas passer sa chance. Les années suivantes, il composera la musique de près de 40 longs-métrages. Du cinéma à la télévision, il n'y a qu'un pas que Quincy, qui est désormais partout, franchit sans hésiter, composant et enregistrant le générique de la série télévisée Ironside, l'homme de fer en français, avec l'acteur Raymond Burr, utilisant alors, pour la première fois, nous sommes en 67, un synthétiseur dans une musique de série télé. Ce titre que voici dans une version étendue qu'il publiera 4 ans plus tard sur l'album Smoke Walker. Quincy compose également d'autres bandes originales de séries télévisées. Citons ici The Bill Cosby Show, diffusé le dimanche soir sur NBC et qui, à partir de septembre 69, est la première série bâtie autour d'un acteur noir et dont les rôles principaux sont tous tenus par des Afro-Américains. La cause noire, dans laquelle Quincy s'implique de plus en plus. En 56 déjà, sa tournée en Europe au sein de l'orchestre de Lionel Hampton avait modifié sa perception du racisme. Pour la première fois, écrit-il, le fardeau de la race ne pesait plus sur mes épaules. J'y ai vu les Arméniens se battre avec les Turcs, les Irlandais avec les Anglais, les Suédois avec les Finlandais, les Grecs avec les Chypriotes. L'Amérique n'était pas le seul pays où les gens ne s'entendaient pas. En France, je me suis senti à ma place en tant que citoyen du monde. Dans les années 60, Quincy milite au sein de nombreux mouvements antiracistes auprès de Martin Luther King ou de Jesse Jackson. Il aide également financièrement le développement des musiques afro-américaines. Mais revenons au Bill Cosby Show, dont le thème principal, intitulé Hickey Burr, est donc enregistré en 1969 lors d'une jam session légendaire. 5409, take one. We'll be right back. Kiki Burr, composé par Quincy Jones et Bill Cosby, 1969. Libéré de ses obligations chez Mercury, Quincy enregistre ensuite son album Walking in Space dans les studios de Rudy Van Gelder à New York et pour lequel il remporte un nouveau Grammy Award. Les années suivantes, il bosse énormément, produit de plus en plus de variétés, mais aussi des styles les plus divers. Quincy Jones sait identifier les bonnes mélodies, choisir les accompagnements ou les orchestres qui conviennent, diriger compositeur ou interprète. Bref, c'est devenu un vrai producteur. Il est partout, produit en 72 le dernier album d'Aretha Franklin, ou bien en 73 une émission télévisée hommage à Duke Ellington. C'est alors qu'il connaît des soucis de santé. En 1974, à la suite de violentes douleurs crâniennes, il est opéré deux fois à 8 semaines d'intervalle. La suite, on la racontait en ouverture de cette histoire, la rencontre avec Michael Jackson sur le tournage de The Wiz, signé Sidney Lumet. Le film, au budget colossal, fait un flop, mais sur le tournage, les deux hommes s'entendent. Suivra la production d'Off the Wall, puis face au succès rencontré par le disque, Quincy et Michael remettent ça. C'est d'abord Thriller en 82, sur lequel Michael signe 4 morceaux. Thriller et son incroyable clip de 14 minutes qui, tout comme ceux de Billie Jean ou bien de Beats, passe en boucle sur MTV tout juste créé, permettant à l'album de s'envoler. Enfin, ce sera Bad en 87 qui signera la dernière collaboration entre les deux hommes. We'll be right back. Who's Bad, Michael Jackson et Quincy Jones. Jones, musicien hors pair, qui a remporté tout au long de sa carrière 27 Grammy Awards, un Oscar et des honneurs à l'appel. En 85 de nouveau, il faisait montre de ses talents de producteur et d'organisateur, réalisant l'un des singles les plus vendus au monde, We Are The World, composé par Michael et Lionel Richie afin de lever des fonds contre la famine en Éthiopie. L'année précédente, il avait également composé la bande originale de La Couleur Pourpre, signée Steven Spielberg. Reconnaissant être drogué au travail, l'une de ses addictions avec l'alcool et le tabac, multipliant les projets les plus variés, s'intéressant les années suivantes au hip-hop, produisant la série Le Prince de Bel-Air, il est toujours vivant et aujourd'hui, à 86 ans, poursuit sa trajectoire en homme d'affaires avisé. On se quitte sur ce Aino Corrida de 1981, repris et produit par Quincy Jones, racontant les mésaventures d'un homme pris dans les raies d'une femme comme un taureau dans l'arène de l'amour, Quincy Jones ayant par ailleurs été toute sa vie durant un homme de conquête musicale ou amoureuse. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, Quincy Jones, la science de l'orchestre, une émission diffusée pour la première fois le 2 novembre 2019. Jukebox se réécoute et se télécharge en ligne où vous retrouvez la liste des morceaux diffusés et la possibilité de nous écrire, à lire l'autobiographie de Quincy Jones traduite par Mimi et Isabelle Perrin parue en 2003 chez Robert Laffont. Merci pour leur préparation à Shushan Djergaïan et Antoine Villoz, à Thierry Dupin pour ses conseils, à Agnès Catou pour sa réalisation. À la console, c'était Eric Boisset avec l'aide d'Alexandre Dang. Au stylo et au micro à Maurice Chardot. À demain, 19h, pour une nouvelle rediffusion. Nous irons nous perdre en Amazonie. I'm being sent to you all.